9h15 minutes, plusieurs sujets ce matin avec notre invité, mais avant de parler de son film, spectacle, Netflix, bon, la question la plus importante, la question du jour, la démission de la ministre, ça passe deuxième. Mm-hmm. Louis-José Hood, est-ce que Carey Price sera devant le filet ce soir et quelle est la nature du virus?
C'est une question d'ordre national, politique et de vie ou de mort hein, maintenant, notre ami Carey. Là, on ne sait pas s'il sera habillé. S'il n'est pas habillé, qui on habille là, ces temps-ci? Là? Qui est le troisième?
Bonne question. Je sais pas.
C'est pas monsieur... comment il s'appelle? Zachary...
Ah, ça se peut. Lindgren, tu dis? Charlie Lindgren.
Ah, Ben, il n'est pas changé, lui?
On me dit que ton... Écoute, ça montre l'importance du joueur dans l'équipe.
On aurait pu habiller King Kong Bundy.
Aussi.
Là, vous avez annoncé son décès il y a quelques minutes. Je vous ai entendu. Je suis secoué, car j'ai grandi, moi, à l'époque de la lutte des années 80. M. Bundy était une figure que j'avais en petit bonhomme, d'ailleurs. Il y avait des bonhommes de lutte là, qu'on vendait. Il y avait des bonhommes de lutte qu'on vendait au Toys R Us pour les enfants de ma génération. Et ils vendaient le ring de la WWF. Et moi, mon père avait refusé de m'acheter les rings, m'en avait construit un dans le garage. Une belle pièce faite à la maison, puis les câbles étaient des élastiques là, avec des crochets là, qu'on prend pour attacher les choses sur le porte-bessic ou des choses comme ça. Donc, il m'a transmis cette passion-là de gosser moi-même les choses. Mais j'ai beaucoup moins de talent que lui pour l'ébénisterie. Je m'éloigne un peu du sujet, mais on espère que M. Price sera en forme pour... parce qu'il y a quand même une bonne saison. Là.
Oui, puis Claude Julien était, disons, à l'air du gars qui aimerait bien, bien ça qu'il soit là ce soir. Ça va dans le propos. Il y avait l'air d'un gars inquiet un petit peu.
Monsieur Niemi fait quand même la belle ouvrage. Là.
Ça dépend des jours.
C'est vrai.
Il y a des hauts et des bas. Mais parlons quand même de plein d'affaires qui vous concernent. Le film, j'ai écouté la bande-annonce hier, j'ai hâte de voir ce film-là, ça m'a rappelé tellement de monde. On écoute un extrait.
Ouais, je vais pouvoir te répondre demain. Là, je rentre dans le tunnel, ça va couper.
Non, parce que la rencontre d'information, on va donner un rein. Ça a duré plus longtemps que prévu, je m'excuse.
Regarde, ça se peut que je sois en retard, là. C'est bumper à bumper depuis une demi-heure.
Ouais, non, j'irai, mais là, je suis pogné chez nous, le gars du câble est encore dans le poteau.
Je te le jure.
Non, écoute, l'ascenseur est encore coincé, là.
T'avais dit 10 heures.
Je sais, mais écoute.
Ton char est au garage.
Non, c'est parce qu'il.
T'as pogné une étiquette.
C'est pas ça, mon assistant,
c'est endormi.
Tu sais pas c'est quoi le cauchemar d'être le frère d'un mythomane.
T'as toujours une belle raison pour tes retards.
Ton sel a plus de batterie.
T'as jamais de signal.
Ça fait 10 ans que t'es chez le dentiste.
T'as fait 16 crevaisons en 8 mois.
T'as pas failli faire le camp d'entraînement du Canadien.
T'as jamais couché avec 33 femmes dans ta vie.
Ouais, non, ça c'est vrai.
Oh, ouais. Mm. Oh, wow. Good job.
Extrait du film Le Menteur, donc, qui va sortir en salle en juillet. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui peut pas s'empêcher de mentir, là. C'est comme un. Il est comme ça. C'est un mode de vie.
Ouais. Puis il s'en rend pas compte.
Il s'en rend pas compte?
Non, je pense que non. Moi, c'est la directive de jeu qu'on m'a donnée un peu, c'est que quand il ment, son visage ne change pas nécessairement. On sent pas qu'il n'y a pas un langage corporel là, qui démontre qu'il est en train de mentir au moment où il le fait. Puis je pense que les vrais mythomanes, c'est ça aussi un peu. Ils vivent vraiment dans leur réalité seconde là, où tout ce qu'ils disent est vrai. Il y a une ligne dans la série Seinfeld, à un moment donné, où le personnage de George, il dit « It's not a lie if you believe it ». Puis, mon personnage, je pensais souvent à cette ligne-là, où lui, tout ce qu'il dit, il le croit. Puis c'est très long avant qu'il débloque dans le film, puis avant qu'il admette qu'il est menteur.
C'est un menteur pathologique, là. C'est-à-dire que...
Ouais.
Puis il finit quoi par se croire? C'est-à-dire qu'il raconte, mettons qu'il dit « J'ai fait le camp d'entraînement du Canadien », puis il va assez le répéter ou le dire qu'il va finir par penser que c'est vrai?
Je pense que oui, c'est ça. C'est le cas de plusieurs menteurs aussi, là. Je sais pas si vous avez déjà été témoin, il arrive quelque chose des fois entre amis, puis quelqu'un se met à raconter ça, et l'embellit tellement avec le temps, que l'a tellement raconté souvent, que la partie pas vraie fait partie du récit maintenant après quelques années aussi. Puis je pense qu'on a tous un peu cette tendance-là à embellir, mais il y en a qui en font vraiment pas un mode de vie, mais une façon de faire au quotidien, puis c'est le cas de ce personnage-là.
Est-ce que ça vous est arrivé que quelqu'un prétend à ses amis que c'est un de vos amis, puis que vous croisez la personne, puis elle dit « Non, tu connais un tel, il arrête pas de dire qu'il te voit, puis c'est un de tes amis. » Ça t'est-tu arrivé?
Souvent.
Moi aussi, c'est pour ça que je te pose la
question. Ah ouais. J'ai joué au hockey, moi, avec des gars là, que j'ai jamais connus, là, dans la rue. Là. Il y a quelqu'un qui est déjà venu me dire, devant moi, un gars qui m'a approché, un gars de mon âge, qui est venu me dire « Hey, on joue au hockey dans la rue. » Mais moi, j'ai une mémoire d'éléphant, là. Et les gens pensent que quand on fait ce métier-là, parce qu'on raconte beaucoup de gens, on oublie, mais on n'oublie pas. En tout cas, moi, j'oublie pas mon enfance, mon adolescence. Puis, il y avait un gars une fois qui venait me dire, Hey, je suis un tel. Je savais exactement c'était qui. Puis il m'a dit, on joue au hockey dans la rue avec tel, un de mes grands amis, avec qui je joue au hockey, mais je n'avais jamais joué au hockey avec ce gars-là. Je savais pertinemment c'était qui. Et c'était pas un mauvais gars, c'était juste pas un de mes amis. Puis il me disait à moi à quel point on avait joué au hockey souvent dans la rue, tellement il a dû le compter à des gens. On n'avait jamais fait le moindre slap shot côte à côte dans nos existences. Là. Ouais.
Moi, ça m'est arrivé, j'étais au Centre Bell, dehors, il y a un monsieur qui m'accroche. Il dit, t'as vu un tel, là? T'es allé souper chez un tel samedi? Je regarde, non. Ben, il dit, voyons, c'est un de tes amis. Et là, il me raconte, j'ai dit, pardon? Il dit, oui, il dit, vous voyez souvent, il dit, au moins une fois par mois, j'ai aucune idée de qui il parle. Oui, le gars, c'était okay. Inventé ça.
Ça, c'est pathologique, là.
C'est, ouais. Puis, Puis là, j'ai dit, écoutez, m'excuse, là, monsieur, puis j'ai pas tendance à renier les gens que je connais, mais ça me dit rien, puis j'ai encore moins soupé avec lui.
Seigneur, je pense que c'est plus répandu qu'on pense.
Il y a du monde assez gravement malade.
Ouais.
Mais comment réagit dans le film l'entourage de ton personnage de voir quelqu'un mentir? Là, il y a Antoine Bertrand là, qui a l'air découragé de la vie d'aplomb, là, qu'il faut qu'il s'ajuste.
Ouais. Alors, on entendait des extraits d'une scène d'intervention, comme on fait là, quelqu'un qui a des problèmes de consommation ou autre. Et donc, ses proches, sa famille et ses collègues. Antoine joue mon frère jumeau là-dedans. Mes parents sont joués par Luc Séné et Véronique Le Flaguet. Et nos parents, Antoine et moi. Puis, la famille et les proches collègues font une intervention dans un lieu neutre là où je suis amené en surprise, si on veut. Puis le personnage refuse l'intervention, nie tout. Et donc ils réagissent. Là. Dès le début du film, le problème il est nommé et puis il crée des dommages là, tu sais, là, aux autres personnages du film. Beaucoup d'acteurs très comiques là-dedans, là, cela dit, là, c'est très très drôle. J'ai vu une première version puis j'ai ri beaucoup. On se sent un peu bizarre là, quand on rit de nos propres jokes, mais c'est parce que le film était tourné il y a quelques mois. Et Antoine et moi, on l'a vu récemment, puis on riait tous les deux de bon cœur, mais en même temps, c'est un peu bizarre.
Vous vous êtes trouvé bon, quoi? C'est...
Ben, pas qu'on s'est trouvé bon, mais je pense qu'on se souvenait pas des punchs, puis ça se surprenait. Mais moi, je riais beaucoup des punchs d'Antoine, puis Antoine riait des miens, là, tu sais. Et puis les scènes avec d'autres personnages où moi, j'étais pas dans les scènes, là, c'est quand même beau de découvrir ça plusieurs mois après, là.
Ça fait quand même quelques films, puis l'expérience sur la scène, quand tu fais un spectacle, bon, ben là, t'as la réaction des gens, puis tu vois ce qui marche moins bien, puis là, tu sais, ça... Quand on fait un film, là, puis que c'est un film comique en plus, comment on évalue ce qu'on fait?
Ah, c'est une grande question. Je sais ce qui est difficile en comédie ou au cinéma, d'après moi. Et là, c'est le travail du réalisateur, dans ce cas-ci, Émile Godreau, qui a aussi fait les deux pères en flic. C'est à lui, puis à... au monteur aussi, les gens en montage, de s'occuper à ce que le timing comique soit efficace. Après ça, ils font des tests aussi, ils montent ça à des publics avant que ça sorte, puis ils prennent le pouls d'une fraction là, du public. Puis pendant qu'on le fait aussi, on fait plusieurs prises. Émile, il fait beaucoup, beaucoup de prises. Fait qu'il part avec toutes les versions possibles du gag. Il va me le faire faire, très vite, très lent, fort, grave, anxieux, fâché. T'sais, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises. Ça, c'est un luxe aussi qu'on a de faire des films avec Cinémaginaire aussi qui ont... Denise Robert a prend le temps de faire beaucoup de prises, beaucoup de temps. On a le temps d'expérimenter ces choses-là. C'est pas garoché. Parce que c'est vrai qu'après ça, quand il n'y a pas le public devant, t'as aucune idée. Tu pars avec ça, puis t'as aucune idée. Et des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Il y a des films qui passent, il y a des films qui passent pas. On sait jamais. Puis comme vous dites, c'est beaucoup plus angoissant comme ça que... Avant de faire les one-man shows que je fais à l'Olympia, je vais les faire dans des salles de 100 places, là, puis personne ne sait ça. Là, puis là, je me pète la gueule joyeusement, mais c'est pas
okay, donne-moi un exemple d'un moment où tu dis, moi, je suis convaincu, je l'ai écrit, je pense que c'est bon, que ça va marcher, puis là, je teste, puis ça ne marche pas.
Mais vous voulez dire...
As-tu un exemple où ça t'est arrivé là, de dire, oups, on se posait rire et personne ne rit?
Ah,
Ou presque pas, là?
Il ne me vient pas un gag précis dans le show que je fais là, mais c'est arrivé. Et ce qui est bien, c'est que cette réaction-là de pas de rire, OK, c'est quand même très drôle en soi. Un gars qui est sur scène, puis qui donne tout, puis qui arrive au punch, puis il n'y a pas un son, là. C'est quand même un peu comique. Et vu qu'on fait pas du théâtre, puis il n'y a pas de quatrième mur, on peut accuser ça. Et tourner ça à son avantage, OK, dans une certaine mesure. Et donc il faut le nommer puis l'embrasser puis après ça continuer puis pas faire un drame avec ça, mais c'est extrêmement gênant. L'échec en humour, il est gênant, il est vraiment brutal, il est vraiment, c'est pas comme une chanson où un public peut lever ou pas lever, j'imagine, dans un show de musique, je suis pas musicien, mais l'humour, c'est tellement... Écoute, on sollicite une réaction physique là, du corps. Là. On veut un son là, qui sort. Et quand ce son-là sort pas, c'est juste vraiment ridicule. Et ben, comme je dis, on faut le nommer puis continuer. Et ce qui est encore plus blessant, c'est que des fois, on est convaincu de quelque chose. Des fois, on va juste un peu à la pêche. Ça marche pas. OK. Mais des fois, on a quelque chose qu'on travaille depuis des semaines. Puis ça, c'est béton. Là, t'entends les oiseaux au moment du gag. C'est vraiment triste.
Mais là, ton nouveau spectacle, là, jusqu'au 13 avril à l'Olympia, puis date à Brossard au mois de mai, puis mm-hmm. tout ça. Là, les gens, c'est parce qu'un chanteur ou un groupe, tu dis, OK, je connais les hits, je m'en vais les écouter, mm-hmm. Les nouvelles aussi. Un humoriste, je le connais, je l'aime, mais là, c'est du matériel nouveau.
Ouais.
Puis là, j'ai payé pour rire.
Ouais.
Je veux rire.
Mm-hmm.
Peu de pression.
Oui, oui, oui. Ah oui, tout à fait. Mais ça vient avec, puis on s'y habitue. Puis c'est, comme je vous dis, rendu là, le show que je fais là je l'ai présenté, je l'ai fait depuis fin 2017, puis il est très rodé, il est très, très serré. Puis, mais oui, il demeure qu'à chaque soir, même un show rodé, c'est quand même un peu prétentieux, tu sais, d'aller sur scène pendant une heure et quart, puis dire, moi, juste parler, puis ça va être intéressant et drôle, tu sais. Mais c'est une sensation, quand ça fonctionne, c'est une sensation qui se compare à rien, en tout cas pour moi. Là, toute la magie de ça réside aussi un peu là-dedans, okay. Dans le risque.
L'expérience Netflix, comment vous avez trouvé ça?
Très, très agréable, ouais, vraiment. Au niveau... ils ont été très attentionnés, disons, dans le processus, OK? C'est-à-dire qu'en amont, pendant, puis en post-production, moi, j'étais jamais allé en salle de montage pour un numéro dans un gala juste pour rire, là, tu sais. On m'a offert ça chez Netflix, puis je suis allé monter. Il y avait un monteur, là, c'est pas moi qui l'a fait, mais je veux dire, je pouvais dire, OK, arrête avant, mais change tel mot, change tel... Tu sais, on a tourné deux spectacles, donc on pouvait faire... La captation que j'ai sur Netflix, c'est un mélange vraiment des deux représentations. Puis c'est tricoté, très serré, puis... moi, j'ai pu assister à ça puis donner mon avis. C'était une première dans mon cas, puis je les ai trouvés très... Le lieu où on a tourné ça, au Club Soda, c'était des conditions parfaites. C'était un climat vraiment agréable. On se sentait pas comme dans une usine à saucisses. François et moi, je l'ai fait le même soir que François Bellefeuille.
Est-ce que vous sentez la réaction? Lui, il est venu l'autre jour, puis il nous a dit qu'il y a des gens qui l'avaient vu, évidemment, parce que Netflix est ouvert sur le monde. Il y avait eu des échos venant de d'autres pays de la francophonie, entre autres, où lui, il n'avait jamais vraiment travaillé là, puis mm-hmm. que ça permettait donc de voyager.
Jusqu'à maintenant, pas dans mon cas, pas non. Vraiment. Je suis un petit peu plus isolé là que François dernièrement, mais non, j'ai pas eu vraiment de feedback à l'extérieur d'ici. J'en ai eu ici, là. Et puis moi, je le faisais aussi dans... Bon, tant mieux si ça tombe. On sait pas qui va tomber là-dessus, là, comme vous dites, dans la francophonie puis partout. Mais après ça, au Québec aussi, je trouvais ça intéressant de le faire aussi pour les gens d'ici, peut-être, qui me connaissent moins, tu sais.
Avez-vous envie d'avoir une carrière à l'extérieur?
Moi, j'étais en France assez régulièrement, là, en 2011 puis 2014, à peu près, en 4 ans. J'ai habité là-haut quand même 6 mois, à un moment donné, puis... je faisais un petit théâtre dans le Marais qui s'appelle Le Point Virgule, puis c'est une expérience très positive, surtout humainement. Je veux dire, d'habiter la France, d'habiter Paris pendant quelques mois, j'ai vraiment aimé ça. Puis professionnellement, ça s'est très bien passé. Maintenant, j'ai juste arrêté d'y aller parce que je trouve, artistiquement parlant, ici, je suis connu, j'ai développé quelque chose avec les gens, puis on dirait que je peux aller plus loin dans les thèmes, c'est plus facile pour moi. Là-bas, t'as le sentiment de faire un peu un best-of de mes choses, je trouve que tu deviens un peu un artiste générique un peu, dans mon cas, là, je veux pas parler pour les autres. Puis je trouve qu'au Québec, d'aller plus loin dans ce que j'ai déjà assumé, c'est plus stimulant pour l'instant. Donc, j'ai pas de grandes ambitions à l'extérieur d'ici, je suis très satisfait comment ça se passe ici pour l'instant.
Je sais que c'est un sujet délicat, mais il faut que je vous en parle. On a beaucoup parlé de Gab Elmaleh, le vol de farce, le vol de ligne. Puis même j'ai vu cette émission en France où on parlait de Martin Mate, en parlant de Martin Matt. On l'a présenté
Mon
comme
Dieu.
Un humoriste américain.
Pour vrai?
Oui, oui, oui.
Ah, j'ai pas vu
oui,
ça.
Oui, oui, sur un plateau de la télé française.
Martin Mate?
Martin Mate, un humoriste américain.
OK.
Comment vous réagissez face à ça? Avez-vous l'impression qu'on vous a volé? Vous dites, bon, ben, c'est dans l'univers, puis je passe là-dessus?
Dans le cas, dans mon cas personnel, dans l'exemple qui est sorti là, d'un de mes spectacles, là, dans, pour, sur le, bon, dans le vidéo de Gad Elmaleh, dans mon cas, je pense pas que. Je crois à la coïncidence parce que, bon, pour remettre les gens en contexte, là, c'est une observation que je fais mener dans un de mes spectacles où je parle du père de famille qui, dans l'auto, conduit, puis les enfants s'excitent un peu en arrière, puis pour les calmer, serre un peu le jarret, la cheville, le mollet des enfants, là, comme mon père faisait ça avec la main par en bas. Puis bon. Et les gens rient dans la salle parce que beaucoup ont eu ce père-là qui faisait ça. Et puis Gad fait à peu près le même gag, mais c'est un gars qui a dû grandir à peu près dans les mêmes conditions que moi, puis qui a peut-être eu un père qui ressemble au mien, puis... Ça, ça arrive beaucoup en humour, quand on fait de l'observation, comme je fais beaucoup. Si on prend mon matériel et on le traduit, là, mes deux premiers spectacles, ça pourrait être compris en Suède et en Afrique, là, si c'était traduit. C'est assez universel.
Okay.
Et dans mon cas, je n'y vois pas d'offense vraiment. Comme dans le cas de l'exemple de Patrick Huard, où Amélie, il raconte qu'il se mouche, puis après ça, pourquoi on regarde dans le Kleenex? Je veux dire, tous mes cousins et mes oncles ont fait cette observation-là dans la vie, puis Patrick l'a fait il y a 20 ans, puis Gad Elmaleh l'a fait après. OK. Bon, il y a d'autres exemples où, par exemple, dans le cas de Martin Petit, où des humoristes anglais ou américains ou français, où là, vraiment, je pense que c'est problématique. Il y a raison de se questionner là, sur les tendances de Gad, mais...
Mais si on vous volait, si vous aviez la certitude qu'on vous volait du matériel pour l'exploiter sans verser des droits, là... Ça serait quoi votre réaction?
Quand ça se fait au Québec, moi je donne toujours le bénéfice du doute parce que personne ne veut être celui ou celle qui vole des gags. Personne ne veut être ça. Je suis peut-être naïf, là, mais je pense que c'est le but de personne de gagner sa vie sur le dos des autres. Okay? Donc moi, des fois, je vais au bordel, Comedy Club ou dans d'autres soirées d'humour, et je vois des plus jeunes faire mon matériel. Ils savent que je suis là. Je dis faire mon matériel.
Attends un peu là. T'es là,
ouais.
Puis ils savent. Enfin, ils reprennent le matériel que t'as créé en sachant que t'es dans la salle à écouter.
Je dis recréer. Ils reprennent pas. Ils prennent, puis je sens l'influence, une très, très forte influence, mais clairement, c'est pas volontaire. On vient de se donner la main puis de jaser. Ils savent pas. Ils ont entendu ce show-là quand il y avait 15 ans, puis ça leur est rentré dans le système. Ils ont digéré ça, puis amené. Et moi-même, il m'est arrivé de faire des choses que, heureusement, avant de les faire devant un grand public, je me suis rendu compte que d'autres le faisaient. Puis j'avais un DVD de George Carlin que j'écoutais il y a 20 ans, puis que ça se met quelque chose dans ma tête, puis après ça, je l'ai sorti moi-même, puis après ça, je me suis corrigé. Mm-hmm. Ça arrive à tout le monde. Quand ça se fait au Québec, quand quelqu'un fait quelque chose qui me ressemble un peu, si c'est trop, je vais lui dire, hey, en passant, j'ai ça dans tel show. Puis s'il continue à le faire, ben c'est lui le pire. OK, moi, la vie continue, puis j'écris du nouveau. Puis tout, si tu veux, cash-in sur mon dos ou sur le dos de Martin Matt ou de Martin Petit, c'est toi le pire là-dedans. Maintenant, si à l'autre bout du monde, quelqu'un prenait 20 minutes mot pour mot mon matériel, là, probablement que je prendrais les moyens pour arrêter ça. Mais au Québec, toutes les fois où ça m'est arrivé, c'est que c'était involontaire, je pense, de la part des gens qui l'ont fait.
On a hâte de voir le film.
Ouais, moi aussi.
Hein? Je vous mens pas quand je dis ça. Là.
Merci bien.
Et le spectacle continue également. Merci beaucoup, Louis-José.
Merci.
On fait la pause, 9h33. On revient après sur notre sujet de tribune téléphonique. On va parler de Michael Jackson. Avez-vous scrappé sa collection? L'avez-vous gardé? Qu'est-ce que tu ferais, toi?
Oh, trop compliqué à répondre pendant le jingle musical.
Arrête le jingle.
Là, c'est un nouveau documentaire et là, ça révèle beaucoup de...
Ben, c'est deux personnes qui disent avoir été abusées par Jackson pendant des années alors que ça a commencé à 7 ans, 9 ans.
Moi, j'ai tout gardé, mes albums de Bill Cosby, et j'ai pas été capable d'en réécouter aucun. Donc, ce serait ça. Je m'imagine mal mettre le vinyle de Thriller à la poubelle, mais probablement qu'il va rester dans l'étagère. C'est un peu ça.
Tu peux repartir, le jingle.
OK.
Merci. On revient après, donc, avec formellement le sujet de tribune.